Vous écoutez
RMC.
RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
On va revenir sur le fameux rapport, vous savez, concernant la SNCF, le rapport inquiétant sur l'état des voies, la vétusté. Ça a été un bon gros sujet de discussion aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules. On va réécouter Maxime et il en parle avec Jacques qui travaille à la SNCF.
Et la deuxième inquiétude, c'est comme tu le disais, le retard permanent. C'est-à-dire que le nombre de fois, et ça m'est encore arrivé récemment, on a des retards à cause d'un problème finalement de changement de voie, d'un problème de voirie, d'un problème de réseau électrique. Le nombre de fois où en plus c'est les premiers trains qui partent le matin, qui sont à la bourre parce qu'il y a un problème de signalisation, donc des trucs électriques de base. Mais je trouve pas ça du tout rassurant qu'une entreprise publique ne soit pas en capacité de nous garantir la sécurité d'un voyage.
Jacques, bonjour Jacques.
Oui, bonjour les GG.
Bienvenue dans les GG, dans les grandes gueules. Maxime vous écoute, allez-y.
Bonjour Jacques.
Oui, bonjour, voilà. Donc je travaille à la SNCF depuis 91 et je suis opérateur de maintenance. Donc effectivement, je reviens sur ce qui a été dit, c'est que pour moi la première chose par rapport à ce qui est au niveau des pannes, c'est le manque d'agents que l'on réduit d'année en année. Et lorsque ces agents sont éventuellement remplacés, on ne fait pas le transfert des compétences de celui qui s'en va pour transmettre à celui qui arrive. Et donc forcément, ça peut créer des soucis dans l'organisation et dans la planification de tous les chantiers qui peuvent être mis en place durant la nuit éventuellement. Et effectivement, il y a aussi l'approvisionnement qui pose parfois des difficultés, l'approvisionnement des pièces nécessaires à cette maintenance. Ensuite, là où je reviendrai, c'est aussi les cadres, on met de plus en plus de dirigeants et de plus en plus de cadres qui ne sont pas obligatoirement des agents de terrain à la base, qui ne connaissent pas les difficultés que peuvent rencontrer justement les agents sur le terrain dans l'organisation et dans la mise en place de tous ces chantiers. Et effectivement, je peux comprendre que le matin, le train ne puisse pas partir à l'heure, soit qu'il y a un problème de signalo, soit qu'il y a un problème de caténaire, soit qu'il peut y avoir un problème de rendu de voie. Parce que quand il n'y a plus ces agents, on part aussi également sous de la sous-traitance. Eh oui, tout à fait. Mais par contre, cette sous-traitance, parfois, elle est effectuée par des entreprises qui ont des agréments, soit, mais qui ne se rendent pas non plus compte de la difficulté.
Mais qui sont pas spécialisés, ouais.
De ce que peut représenter un chantier SNCF, enfin sur la réfection des voies, etc. Et par moment, ils prennent du retard, et ce retard fait qu'on peut pas rendre la voie en temps et en heure. Mmh. Et forcément, ça pénalise le départ du train ou ça pénalise effectivement un changement de voie, un changement d'aiguillage, parce que cette voie est condamnée. Donc il y a tous ces paramètres qui parfois fait que l'engrenage coince. Et après, je pense qu'il y a aussi une volonté interne et politique de vouloir maintenir en état les lignes, notamment les lignes TER et Intercités, où on a misé énormément d'argent sur le tout TGV, quoi.
Oui. Alors, réponse de Maxime.
Déjà, cher Jacques, merci de confirmer ce que j'ai dit, notamment au niveau des retards qui étaient dus parfois, à des choses qui paraissent en tant que voyageurs réellement anecdotiques comparées à ce qu'on nous promet. Donc, merci. Et ensuite, je peux que constater quand je prends le train, il suffit d'ailleurs de discuter, mais avec n'importe quelle personne SNCF, celui qui contrôle vos billets, celui qui est à bord du train, celui qui vous tend le billet, qui vous aide à prendre le billet au guichet, etc. C'est des gens qui vous disent, non, mais écoutez, de toute façon, je peux pas vous répondre parce que c'est une autre personne. Quand il appelle l'autre personne, c'est encore une autre personne.
Tout à fait.
Et exactement. On s'aperçoit, si vous voulez, que l'échelle, aussi bien humaine que l'échelle des compétences, est tellement graduée, si vous voulez, qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas avoir une info en temps réel, à tel point que parfois, dans un même trajet, on s'aperçoit que le train a 5 raisons de retard différents, ce qui peut paraître assez absurde. Et là où je suis d'accord avec vous, pour prendre également les petites lignes très régulièrement, on a tellement misé, si vous voulez, sur le tout TGV qui, pourtant, malgré les investissements reste pas défectueux, mais il reste en trop mauvais état comparé aux investissements promis, que les gens et la mission de service public qui est dans son nom n'est pas accomplie. Et on s'aperçoit que les trajets du quotidien sont, quand ils sont effectués, mal effectués, trop peu effectués, mal entretenus. Et en effet, c'est regrettable. Et merci également de confirmer que la sous-traitance n'est pas un mal en soi, mais est malheureusement pas assez spécialisée pour rendre à l'heure et de façon assez
donc cadrée, c'est juste une question de priorité et de volonté. De volonté politique, quoi, en fait.
Tout
c'est ça,
fait,
quoi.
Bien sûr. Mais on a eu le cas d'une entreprise qui est arrivée avec son propre matériel par transport routier, qui met son matériel sur les voies, donc notamment donc, ce qu'on appelle chez nous les drésines, des broises. Et en fait, celle-ci est due à tomber en panne. Et il faut pouvoir la redémarrer, la remettre en service, hein, donc voir de terminer le chantier et repartir en heure. Et où ou également une entreprise de sous-traitance espagnole, donc je n'ai rien contre l'Europe, il n'y a pas de souci, mais cette entreprise espagnole, au bout de trois jours, nous a planté le chantier parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans l'incapacité de pouvoir le faire en temps et en heure et d'avoir les moyens techniques de pouvoir le faire.
C'est le problème.
Ça, c'est un problème
c'est la SNCF qui est responsable quand même.
C'est un problème de compétence. Parce qu'au moment où vous choisissez l'entreprise qui vient faire le boulot, normalement, vous devez vérifier qu'elle a tout le matériel et toutes les compétences nécessaires.
Merci à Jacques. De confirmer qu'on gangrène cette entreprise à coup de cadres supérieurs, de gros salaires, pour une entreprise qui est finalement très mal gérée.
Merci Jacques de ce témoignage. De suite du GG, vous dans un instant sur RMC, RMC Story. Et puis nous accueillerons Emmanuel Le Chip pour le menu de Radio Brunet, midi 14h sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. RMC.
Bien installé.
Pas terrible.
9h midi,
je vous présente humblement le joyau de la couronne de nos gardiens de la liberté.
Un visionnaire.
Alain Marchal.
Un génie.
Soyez le bienvenu dans la joyeuse famille des capitalistes.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules, suite et fin. Est-ce que ça se termine dans un quart d'heure avant de se retrouver demain à 9h, bien sûr. Avant d'écouter David qui va reparler écologie, diversité avec Elina Dumont, Monsieur Emmanuel Le Chip, Radio Brunet sur RMC, midi 14h. Le programme.
Bonjour Alain, le programme aujourd'hui. Eh oui, ça fait 5 mois que les urgences sont en grève. Et pour moi, la seule solution, c'est tout simplement d'en restreindre l'accès. Tout simplement, pourquoi ? Parce que tous ces gens qui réclament plus de moyens, jamais ils ne les auront. Donc, tant qu'on ne fera pas une vraie réforme, on restreint l'accès aux urgences. Et puis, ces pauvres hôtesses. Harcèlement sexuel, mépris social, exploitation. Les hôtesses se rebellent, Alain. Les hôtesses se rebellent.
Ah oui, les hôtesses que l'on voit dans
les hôtesses d'accueil,
dans les
notamment.
Salons, les hôtesses d'accueil.
Et peut-être aussi les hôtesses des salons.
Ça, c'est pas faux. Hein.
Et donc, elles en ont marre. Et moi, j'ai la réponse, c'est très simple. On supprime ce métier qui ne sert à rien. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un acheter une voiture uniquement parce qu'il avait eu droit à un beau sourire de l'aise? Donc on les supprime, et je dirais même plus, on va plus loin, on les remplace par des robots. Voilà, vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord. Vous nous appelez au 3216.
3216 pour réagir donc avec Monsieur Emmanuel Le Chip, midi 14h en direct sur RMC. Suite du GG, vous, on a parlé du coup de gueule de la fédération du président de la fédération des chasseurs qui a parlé des écologistes comme étant la secte verte, la nouvelle religion intolérante. Oui. Ça a fait du bruit, ça a fait du débat. On écoutait Lina Dumont et puis elle en parle avec David.
J'ai appelé. Mais faut pas quand même oublier qu'à un moment donné, s'il y a plus de chasseurs, il y aura une multiplication de sangliers, j'ai n'importe quoi, de loups. Et à un moment donné, il faudra bien gérer tout ça. Au Canada, en tout cas, c'est très bien géré. Et ça n'empêche pas qu'il y a quand même quelqu'un qui a été mangé par un ours. Donc à un moment donné, on aura besoin des chasseurs.
David, bonjour.
Bonjour, allez GG.
Allez-y, Elina vous écoute. Bonjour.
Alors, Elina.
Oui.
C'est vous qui avez eu cette phrase, je pense que c'était l'idée générale des GG, mais vous avez dit qu'il fallait des chasseurs donc pour réguler le nombre d'animaux, donc c'est sous-entendu aussi de pêcheurs, bien sûr.
Oui.
Alors, il faut aussi savoir aussi à notre niveau ce que l'on peut faire avant de faire la chasse, avant de faire tout ça. Il ne faut pas oublier que c'est nous quand même qui empiétons sur leur territoire. C'est nous qui faisons de la déforestation. Il ne faut pas oublier que chaque année, il y a 13 millions d'hectares de déforestation dans le monde. Donc, c'est comme nous qui prenons leur territoire pour pouvoir mettre nos maisons et nos usines sur les forêts. C'est nous qui prenons aussi sur la mer, comme les Émirats Arabes Unis qui s'agrandissent sur la mer, ou même plus proche de nous, Monaco, qui s'est elle aussi étendue sur la mer. Donc, je veux savoir où était le juste milieu avec tout ça.
Bah, écoutez, moi je parlais au niveau de la France, mais dans les campagnes où je vais souvent, quand même dans les fermes, les poules se font manger par les renards, les hérissons mangent les œufs des poules. Enfin, à un moment donné, il faut bien réguler. Même j'ai vu suffisamment de lectures autour des sangliers et les sangliers se multiplient. Et il y a des champs de maïs des fois qui sont défoncés par les sangliers. Je dis pas de tuer les animaux. Moi de toute façon, j'aime les animaux. Je suis pas une tueuse quoi. Mais vous comprenez ce que je veux dire. À un moment donné, il faut bien réguler. Au Canada, s'ils régulaient pas, mais vous rendez compte. Déjà, quand ils ont faim l'hiver, les ours viennent en ville.
Oui, j'ai une ville parce que c'est comme nous qui prenons aussi pareil, qui nous étendons petit à petit. On fait rien en fait. On les stocke vraiment dans des espaces que pour eux. Et nous, on fait rien à notre niveau, quoi. C'est vraiment, c'est nous qui décidons, c'est nous les plus grands, c'est nous les plus forts. Et eux, ce sont des animaux, ce sont c'est rien pour nous, quoi.
Vous habitez où, monsieur, vous ?
À Marseille.
À Marseille.
Bon. Il y a des loups.
Il y a les calanques, il y a de la forêt.
Tout à fait.
Eh ben, imaginez qu'il y a une multiplication.
Imaginez
d'animaux.
Un peu de folie.
Et que tout à coup, ils envahissent l'espace du port. Il faudrait bien réguler.
Je comprends. Bien sûr, je comprends. Mais parce qu'au départ, on a pris quand même. On prend de plus en plus de leur territoire. C'est ça que, voilà, que je veux dire. C'est qu'on ne fait rien du tout pour nous gérer nous-mêmes déjà. Se dire, arrêtons déjà la déforestation, arrêtons de s'étendre.
Ah ben moi, je suis pour qu'on arrête la déforestation. Vous avez vu cet Indien qui se bat là ? Moi, je l'adore, ce mec, il est extraordinaire.
Non, mais c'est deux sujets, si je puis me permettre.
C'est deux sujets complètement différents.
C'est deux sujets complètement différents. Mmh. Je veux dire, le fait de préserver la nature et de lutter contre la déforestation, etc., n'a rien à voir avec la chasse. Moi, ce que j'aimerais comprendre dans la chasse, c'est la chasse par plaisir et la chasse écologique, si je peux parler comme ça. Mais évidemment, regardez, on avait tout à l'heure un candidat à la mairie de Paris, et à Paris on reparle de végétalisation, de jungle urbaine, etc. Tout le monde est d'accord pour dire que il faut préserver les espaces naturels le plus possible, parce que du coup on vit dans un environnement qui absorbe la pollution, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la chasse. Enfin,
c'est un tout, et c'était mon coup de gueule.
C'est bien,
vous avez bien
merci
fait
en tout cas.
David, merci. David, donc vous êtes très engagé écologiquement, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein. D'accord.
Mais vous êtes engagé, mais je fais le minimum que je puisse faire.
Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'où vous poussez cette logique ? C'est simplement le petit complément. Parce que tout à l'heure, notre discussion, c'était de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de nouvelle religion écologique où on vous dit, vous êtes dans le camp du bien ou vous êtes dans le camp du mal ? C'était ça aujourd'hui qui était le thème de la discussion, quoi, David. C'est ça. C'est aujourd'hui, est-ce que manger de la viande continue de prendre.
Tous les camps. Voilà, savoir parler, comme a dit, voilà, en politique, savoir parler avec tout le monde, et bien c'est pareil pour la chasse et la pêche.
Ouais, est-ce que pour vous, le chasseur, c'est le camp du mal ?
Non, voilà. C'est pas le camp du mal, voilà. C'est pas le camp du mal. Si c'est bien fait aussi, voilà.
Merci David d'avoir été avec nous, à bientôt.
Merci à vous.
Bonne journée du côté des Bouches-du-Rhône. Ah bah tiens, on n'est pas loin, dans le département limitrophe, le Var, à Solliès-Pont. On va retrouver Olivier. Olivier, vous reparlez avec moi du sommet du G7 à Biarritz. On va voir pourquoi. Bah, écoute. Lorsqu'Emmanuel Macron avait encore de bonnes relations avec François Bayrou, et lorsqu'ils se sont vus dans la région des Pyrénées-Atlantiques entre Pau et Biarritz, il a aimé la région. Et comme c'était la France qui devait accueillir le sommet du G7 qui était à l'époque du G8, et que Biarritz avait aussi une forte communauté russe, il dit tiens, ce serait pas mal que le G8, le G7 vienne s'installer ici. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour.
Je vous écoute, Olivier, allez-y.
Oui. Je vais revenir sur votre nouveau propos.
Oui. Bon, voilà. On y va.
Pour le choix de Biarritz. Mm-hmm. En fait, le choix de Biarritz, c'est pas un anodin.
D'accord.
C'est un choix, on va dire stratégique pour les forces de l'ordre.
Parce qu'il y a la mer.
Je pense qu'il est c'est très facile à sécuriser. Mm-hmm. Et malheureusement, il y a 10 jours pour les gens qui devaient partir en vacances, qui vont être un peu impactés par ce G7. Qui va être, on va dire destructeur pour un peu le tourisme.
Oui, alors ça, c'est pas faux. Olivier, quand j'expliquais le choix de Biarritz, pour être très précis, lorsque je crois que c'est Emmanuel Macron passait ses vacances, c'était au printemps 2016 avec son épouse, il a rencontré François Bayrou, il n'était pas loin, il n'était pas encore candidat, et il avait sympathisé avec le maire de Biarritz, connaissance la région, oui. Et ils sont, si je me souviens bien, restés en contact, et lorsque la France a dû organiser le G7, il ne voulait pas le faire à Paris, il a dit où est-ce qu'on peut le faire, il a dit Biarritz en tant que vitrine, Biarritz en tant que lieu d'accueil, c'est plutôt pas mal, sauf que il y a une discussion avec les policiers pour dire il y a la mer certes qui est un périmètre assez facile parce qu'on a qu'à patrouiller là, voilà,
oui.
Pour sécuriser, mais de l'autre côté il y a une topographie qui est simple parce que au milieu de Biarritz,
les accès aussi au niveau espagnol, au niveau frontalier sont très simples.
Certes, au milieu de Biarritz, vous mettez le G7 avec les zones, dont la zone rouge où se retrouvent dans le Grand Hôtel les chefs d'État et de gouvernement, ça c'est pratique. Sauf que vous vous retrouvez dans une région avec plein de petits villages, des routes départementales, le foisonnement aussi de l'indépendantisme basque et de l'altermondialiste espagnol. Et c'est là où, en plein mois d'août, on s'est dit...
L'altermondialiste basque a disparu quand même.
Ouais, mais il y a quand même un foisonnement. Il y a quand même un foisonnement qui est là. Le TA n'existe plus en tant que tel, mais il y a une identité forte, si vous voulez, qui est là. Et là où ensuite les services de sécurité ont dit ça va être quand même compliqué pour nous, avec les villages avoisinants, les routes départementales et tout ce coin touristique, alors que c'est en plein mois d'août. Et ça, ça a été compliqué à évaluer et à sécuriser derrière. Le maire de Biarritz, je sais pas, il faudra qu'il fasse les comptes derrière. Alors peut-être que le dédommagement...
Je suis pas sûr, parce que je pense qu'il était de connivence aussi avec le gouvernement, parce que sans faire de politique...
Mais non, c'est 3 jours.
Il faut penser aussi aux communes avoisinantes. Hein. On oublie Saint-Jean-Luz, Loetsun, on oublie aussi Guétari, on oublie pas mal de choses.
Ouais.
D'accord. Donc entre Hendaye et Biarritz, il y a beaucoup de communes.
Hendaye qui accueille le contre-sommet d'ailleurs, avec plaisir. Fait. C'est ce que dit le maire d'Hendaye d'ailleurs. Tout il est fait. Très heureux d'accueillir le contre-sommet.
Mais les axes. L'accès entre les communes entre Hendaye, comme on dit chez nous, et Biarritz sont très réduites. Donc en fait c'est très facile à sécuriser. Donc je pense que là, là où je veux porter ma réflexion, c'est que Monsieur Castaner, il va jouer le succès sur ce G7.
Écoutez, je vais vous dire, très franchement,
je
vous le souhaite, hein, parce que ici, personne ne souhaite qu'on en vive trois jours d'affrontement, de violence,
de surtout pour les forces de l'ordre.
Avec des gens qui aillent au tapis. Et d'ailleurs, Olivier, on en parlera demain dans les GG, dans les grandes gueules, puisque dans le grand oral des GG, nous serons avec Annick Coupé. Annick Coupé, elle est secrétaire générale d'ATTAC. ATTAC sont les altermondialistes, parmi ces mouvements qui se retrouvent pour le contre-sommet du côté d'Hendaye, pour des discussions, des débats, des tables rondes et l'appel à des rencontres pacifiques. Sauf qu'on verra comment ça se passe derrière, puisque ces mêmes associations et mouvements appellent aussi à des rassemblements et des occupations de places publiques sans forcément avoir demandé les autorisations aux préfectures. Donc ce sera l'un de nos thèmes de discussion demain. On se retrouve à 9h. Nous serons avec Joël Dagosséry, chargé clientèle logement social, Johnny Blanc, qui est fromager, et Marianne Soubré, avocate. Voilà, passez une bonne journée. Vous avez le programme des GG, des grandes gueules, en tout cas les intervenants. On se retrouve pour de nouveaux sujets de discussion, de polémique et de débat avec vous, bien sûr, au 32-16. Bonne journée et à demain 9h.
RMC, les grandes gueules.